à tous, la grande table d'été sillonne les chemins de la création à la rencontre de ses acteurs. À 13h50, François Sureau fera halte le long de la Seine à Port Aviation, ville d'inspiration d'Apollinaire et de son poème Zone. Mais avant cela, une autre zone, l'Hexagone, titre de l'exposition qui occupe les murs de la gare de Lyon et d'Avignon. Yann Morvan et Éric Bouvet, photojournalistes spécialisés dans les zones de guerre, ont pointé leur objectif sur la France, en particulier les habitants, oubliés de territoires qui le sont tout autant. Deux années et plus de 60 000 km parcourus, avec une question en tête, qu'est-ce qu'être français? L'identité interrogée dans sa globalité décidant une fresque des luttes, des espoirs et des mutations qui animent l'Hexagone. Les réponses sont capturées par la Chambre 2025, la mémoire d'une certaine photographie chevillée au corps et des textes témoignages livrés sans commentaire. C'est ce dont nous allons parler avec eux, en compagnie des auteurs et du sociologue et maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, Renaud Epstein. Bienvenue à tous sur France Culture.
Maëlys Besserie.
Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, quelques mots sur ce projet Hexagone que l'on voit sur les murs des gares, alors de Lyon, mais aussi de la gare d'Avignon, et qui devait être à Arles, si je ne m'abuse, Yann Morvan.
Oui, ça devait être à Arles.
Il fait partie des annulés, récupérés.
Bah, c'est un peu, comment dire, on était dans une abbaye. Hein, donc de toute façon c'est un travail qui est religieux, Hexagone, et donc on devait être dans une abbaye, et puis le confinement a fait que Arles a été annulé, et disons que la SNCF, hein, avec Gare et Connexion, qui est un partenaire de longue date, pensait que c'était bien de montrer finalement des usagers du train, hein, comme exposition, puisque nous on a photographié des êtres humains, et l'idée est venue à germer de dire ben, on va quand même montrer Arles, on va parler d'Arles, on va faire sortir entre guillemets le musée dans la rue, et c'est ce qui s'est passé avec Hexagone, c'est-à-dire on est ravis que effectivement les 40 000 ou 50 000 visiteurs de l'abbaye de Montmajour à Arles se sont transformés en peut-être 1 ou 2 millions.
Alors, petite question quand même, vous avez dit que c'est un projet religieux. Yann Morvan, ne s'attendait pas à ça. On aurait plutôt vu un projet politique. Éric Bouvet sourit de l'autre côté de la table.
La religion, c'est du politique. Hein. Il faut repartir au...
Ah, dans ce sens-là, d'accord.
Oui, tout à fait.
Donc, pourquoi un projet religieux?
Parce que c'est un sacerdoce. Quand on a commencé cette opération avec Éric, on a un peu le même parcours tous les deux. Bon, moi, je suis un peu plus vieux, juste un peu. Moi, je suis la génération des correspondants de guerre des années 80, Bouvet des années 90. Et on a un peu le même parcours. Et on a fait un constat, c'est que à force de voyager, de rencontrer des situations pénibles, des pays en difficulté, on a fait le constat. Je crois, avec notre expérience, que la France avait un mauvais parcours. On s'est rencontrés en janvier 2017, près de la Bibliothèque nationale de France, qui est symbolique déjà. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose dans ce pays. La politique était l'affaire Fillon-Pénélope. On s'est dit, mais c'est pas ça la France. La France, c'est des gens qui travaillent, qui souffrent, qui ont des envies, et il va se passer quelque chose. Moi, à l'époque, j'avais un labo qui était près de la porte de la chapelle, et tous les jours, je passais pour faire tirer des photos, et je voyais ces gens qui étaient là, qui étaient en souffrance, qui venaient des pays que j'avais fréquentés auparavant, pendant les conflits, et on s'est dit, on va faire quelque chose. Alors, on a monté un projet en disant, on va raconter la France, on va aller voir les magazines, on va leur montrer avec une... Alors, pourquoi la Chambre
25? C'était votre projet à tous les deux au départ?
Oui,
c'était
oui.
C'était pas du tout une commande?
Non, pas du tout. Vous savez, les commandes, ça n'existe plus depuis belle lurette dans notre métier. Donc on s'est dit, on va y aller. De toute façon, il n'y a jamais eu vraiment de commande. Hein. C'est un métier où chacun est déterminé. Parce que c'est un métier passion, si vous voulez. C'est pas un métier où on a des commandes. Alors bon, après, il y a des photographes qui sont en commande, mais ça, c'est pas notre cas.
Donc. On peut se aussi se réapproprier les commandes.
Éric
Bouvet.
Alors oui, non, c'était pas une commande, mais on ne peut que remercier le ministère de la Culture que nous sommes allés voir en leur présentant le projet. Et c'est eux qui nous ont aidés dès le départ.
Qu'est-ce qui contenait ce projet? Puisqu'on a parlé des kilomètres parcourus, des portraits, mais peut-être raconter ce qu'il y avait dans le contenu de ce projet, qui était un projet photo, accompagné quand même de textes, témoignages.
Ah oui, alors les textes sont très importants. Sans les textes, ce serait juste des portraits. Et en l'occurrence, il suffit de se promener à Gare de Lyon et de voir que les gens s'arrêtent là où il y a des textes. Parce que ce qui s'est passé, c'est que nous sommes allés à la rencontre de ces Français. Nous avons fait une enquête auparavant, savoir qui l'on prenait. Voilà.
Alors, c'est tous ces Français.
Mais nous avons essayé de faire quelque chose de très large, de tout en bas de la société jusque tout en haut. Pas d'élite, pas de gens connus, mais cette France qui bosse, cette France qui est multiple. Parce que c'est ça, en plus, on s'en est rendu compte, c'est incroyable. Cette France, elle est multitout, quoi.
Alors, Renaud Epstein, je vous vois justement bouger aussi de l'autre côté. Ça veut dire quoi, ces France? On a parlé de France périphérique encore hier. On entendait Jean Castex évoquer la France des banlieues, la France rurale, les France, la France des Outre-mer, la France périphérique. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette terminologie de périphérique?
Alors on peut repartir sur cette terminologie, mais en tout cas moi, en ayant vu cette expo photo, moi justement je suis frappé en voyant le projet tel qu'il est décrit, tel que vous venez de nous le rappeler, de sillonner la France, donner à voir les Français, et en voyant ces photos, de voir comme vous avez choisi de mettre le focus, de faire le point justement sur les gens plutôt que sur le territoire en tant que tel. Il y a une sorte de flou qui est dans vos photos, qui est sans doute assez volontaire, sur les lieux. Il n'y a pas d'indication géographique, ni même souvent d'indices qui permettent d'identifier les lieux en termes de localisation, en termes de type de territoire. Par exemple, ce que certains ont pu appeler la France périphérique, une sorte de grand flou dans lequel on met la France des petites villes, la France périurbaine. Toutes vos photos, ou pratiquement toutes les photos, celles que j'ai pu voir, Gare de Lyon, on ne sait pas où c'est pris. On ne sait pas. Alors, sauf
périurbaine ou rurale d'ailleurs.
Ou rurale, quoi. La France périphérique. Bon, on pourra revenir si vous le souhaitez, mais c'est un concept flou qui a un vague sens politique qui dit en gros toute la France hors des métropoles. Pour les géographes, les sociologues, les politistes, ça n'a pas de sens. Hein. Mais bon, on pourra revenir. Mais justement, quand on regarde vos photos, on ne sait pas où c'est pris. On ne sait pas si c'est pris dans le périurbain, si c'est pris en banlieue, si c'est pris dans les grandes villes. Quelques photos. On a quelques peut-être indices, mais vous avez choisi. Il me semble délibérément de faire ce flou, y compris quand il y a vraiment très très concrètement, les personnages sont nets, sont extrêmement nets, et l'arrière-fond, pour la plupart des photos, lui est flou.
Et pourtant, il est là cet arrière-fond, Éric Bouvet, peut-être vous pouvez réagir sur cette question-là. Le paysage existe néanmoins, il y a souvent le territoire en même temps que la personne qui est représentée, même s'il est flou, on voit un champ, on voit une boucherie, on voit un lieu clairement, distinctement.
Le travail à la chambre, déjà, c'est du très grand format. Donc, nous sommes avec un négatif qui fait 20 par 25 cm, pour parler technique. Donc, du coup, la profondeur de champ se réduit. Plus on monte en format, plus la profondeur de champ se réduit. Donc, c'est aussi... une contrainte technique. Donc, c'est pour ça aussi que ces personnages sont très présents par rapport au reste du paysage. Pourquoi nous avons choisi les gens, les hommes, les femmes, les humains? C'est tout simplement parce que Eyan et moi, toute notre vie, on a été confrontés à, que ce soit sur des terrains de conflit ou des sujets de société, ce sont les gens qui nous ont toujours intéressés. Il y a eu beaucoup de choses de fait auparavant par d'autres grands projets, par la DRAC à l'époque, par Territoire Liquide, le Littoral, et tout ça. Donc des paysages, ça a été fait. L'ami Raymond Depardon a aussi fait sa France à lui. Voilà.
Mais l'origine, c'est la DATAR aussi, c'est ces missions-là, hein, des années 80, 84.
Tout à fait. Et donc c'est pour ça, encore une fois, on ne peut que remercier le ministère de la Culture qui est encore là. Et c'est eux vraiment qui nous ont aidés à faire ça. Et nous, c'est les gens. Voilà. Donc ces gens, eh ben, ils nous passionnent. Et franchement, à les écouter, à leur donner la parole, c'était très émouvant. Ouais. J'ai été plusieurs fois scotché par ce qu'ils me racontaient.
On va écouter un autre photographe, une archive de Denis Darzac. C'était le 4 juin 2015. Il va nous parler justement de l'autre dans la photographie.
Depuis le début, en fait, faire des photographies, c'est pour moi, c'est regarder l'autre. Regarder l'autre dans toutes ses dimensions. Alors... Je pense que c'est même au-delà du portrait, c'est-à-dire que ce n'est pas le visage, c'est le corps qui parle plus que le visage. Et il est clair, enfin, je viens de dire parler, c'est-à-dire que c'est ça qui est drôle, c'est qu'évidemment une photographie, elle ne parle pas. Par contre, on a encore plus le moyen de s'exprimer quand on l'utilise, quand on montre tout le corps, que simplement un visage. Il y avait aussi cette lassitude de l'exercice imposé dans les magazines où tout d'un coup on doit photographier un écrivain, on doit photographier une pop star de passage, et c'est toujours des visages qui ou jouent la communion ou qui jouent l'hostilité ou l'attentisme ou... Et tous ces jeux là sont tout à fait inintéressants, je trouve. En tout cas, on s'en lasse vite, hein, tous ces visages qu'on voit en couverture de magazine. Et je me dis qu'il y avait une autre façon de faire des images qui engage la personne qui est représentée, c'est quand il utilise son corps. Et généralement, j'essaie de mettre en, en rapport deux réalités. La réalité sociale, physique, psychologique des personnages face à un environnement qui lui-même s'oppose ou dialogue, ou en tout cas ces deux réalités dans le cadre créent un choc.
Ah, Yann Morvan, est-ce que vous vous sentez proche de cette représentation de la photographie de Denis Darzac, ce choc-là entre le paysage, ce qui peut se dire de l'intérieur dans la photo ?
Non, je connais bien Denis et on est vraiment. Alors, ce qui est formidable avec la photographie, je crois qu'on a tous le même outil et puis on fait pas le même métier. Et avec Denis, bon, j'apprécie beaucoup son travail, mais c'est aux antipodes de ma façon de penser et de réfléchir et de photographier. C'est-à-dire que lui va chercher, disons, la beauté du corps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contexte, c'est-à-dire la dimension, je dirais, politique, économique et sociale et culturelle de l'individu. Quelque part. Pour moi, un individu, il représente quelque chose. C'est-à-dire, je ne vais pas faire une étude marxienne, mais disons, quand je vais photographier les gens, je fais un travail, et toute ma série de gens sur l'Hexagone est comme un espèce de puzzle, c'est-à-dire quelque chose avec chaque personnage représente une fonction, et quelque part, la mise en place, la mise en scène, parce que c'est une mise en scène, correspond à un moment social et culturel d'individu. Alors que Denis, lui, va chercher, peut-être plus de la poésie.
Mais l'esthétique est toujours là, quand même, Yann Morvan.
Oui.
Certes, il y a la volonté de raconter quelque chose dans la photographie, de donner une dimension visible, sociale et politique. Mais derrière cela, il y a aussi le choix de cette chambre 20-25. Il y a aussi la mise en scène dont vous parlez. Il y a aussi la manière dont les photos sont installées et sont mises en place.
Alors,
donc il y a un projet esthétique quand même.
Il y avait deux termes qui étaient importants pour moi dans cette mission, et qui sont très importants parce que de tout le travail que j'ai fait en France, que ce soit les banlieues, etc., c'était respect et dignité. Ça, c'est deux mots qui reviennent en permanence. Et c'est-à-dire que le portrait à la chambre photographique, on va retrouver depuis la nuit des temps, entre guillemets, c'est-à-dire les années 1850, etc., il fonctionne comme ça. C'est-à-dire respect et dignité. C'est-à-dire c'est un rapport à la peinture et les gens comprennent très bien ça.
Alors, expliquez-nous, parce que c'est pas très clair, Yann Morvan. Pourquoi, en quoi la chambre donne plus de dignité? Parce qu'elle est lente, parce qu'elle est précise, parce qu'elle est pérenne?
Parce que le volume des personnages, si vous avez été voir l'exposition, c'est-à-dire que les personnages quasiment sont grandeur nature, on pourrait presque les toucher. Donc tous les gens, il y a beaucoup de personnes qui ont été photographiées, sont venues voir, ils se sont reconnus. Ça, c'est important. Si vous faites demain une photo, ce que les gens font avec un smartphone, etc., vous allez vous demander qu'est-ce que c'est que cette chose-là. C'est-à-dire moi, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire on vit dans des traces qui sont des images. On est dans une espèce de brouhaha, de brouillard d'images en permanence, de millions d'images. Mais l'individu et la personne aujourd'hui ne peut être restitué que avec. Alors la chambre photographique.
Ça, c'est une perspective réaliste, et on pourrait aussi vous dire que le geste artistique, c'est de transformer, et ça ne veut pas dire qu'on trahit, qu'on manque de dignité.
Tout à fait.
Le peintre, il n'est pas là pour une
représentation. Ce que fait Denis Darzac, mais on est dans ce que je vous disais, c'est qu'on a un outil et on a des modes opératoires complètement différents. Moi, j'avais mon cahier des charges, c'était essayer de raconter les Français d'une manière traditionnelle et classique et compréhensible par tous. C'est-à-dire qu'il était clair que je m'appuyais sur des référents culturels qui sont les nôtres, de notre société, notre culture. Et donc, j'allais utiliser un outil que tout le monde, c'est-à-dire du bac moins 20 au bac plus 20, pouvait comprendre. C'est-à-dire parce qu'il est à l'école, parce que dans les livres de classe, parce que dans les musées, on retrouve toujours cette mode de représentation. Et c'était mon schéma culturel pour ces images.
Alors, dans les choix des acteurs, des gens que vous avez choisi de photographier, Éric Bouvet, alors les choix sont assez différents. Néanmoins, il y a l'idée de mosaïque, de fresque, en tout cas, de représenter ceux qui le sont moins ou qui le sont exclusivement par les médias. Alors, en même temps, vous êtes aussi photojournaliste, Éric Bouvet. Alors, en quoi vos représentations à vous, des gilets jaunes portés, par exemple, par toute une famille, des soignants masqués, en quoi ces représentations-là offrent-elles une autre vision ? Dans Hexagone.
Je crois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, cette France, elle est multitout, et c'est pour ça qu'on est, on a été obligé d'aller chercher tous ces gens si différents. Donc, oui, mais la famille, elle était là. Hein. Moi, j'ai rien inventé. J'ai aussi un vicomte qui a son gilet jaune avec son chien. Il fait porter un gilet jaune à son chien. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde tous ces gens ou quand on va à leur rencontre. Ce qui en ressort, c'est tout simplement, c'est que il y a un plaisir d'être français. Et en plus, une fierté. Alors, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est que il y a beaucoup de rébellions en France, il y a beaucoup de révolutions, il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires à plein de choses, que ce soit à l'économie, à la politique, à la religion, bref, aux mouvements divers et variés. Mais presque tous, sur 100, j'en ai 99 qui me diront qu'ils seront fiers d'être français. Alors, évidemment, y compris le gauchiste vraiment gauche, quoi. C'est, il a aussi un drapeau français. Et on fait toujours des amalgames. Et franchement, en allant à la rencontre de ces Français, moi, plus ça va, plus je vais vers un certain âge, et plus j'ai d'incertitudes. Et là, ça confirme. C'est tout ce qu'on peut s'imaginer tombe. Parce que vous parliez du journalisme, on connaît bien le système, hein, ça fait moi 39 ans que je suis dedans, toi donc 5 ans de plus ou 6 ans de plus. On sait comment ça marche. Voilà. C'est très souvent orienté, on pointe ce qui ne va pas et on en fait des montagnes. Voilà. Mais effectivement, là où nous pouvons être fiers de ce qu'on a fait, c'est que nous sommes allés voir aussi tous ces gens à qui on ne donne jamais la parole et qui fonctionnent. Il y a, je crois que la France est le pays où il y a le plus d'associations au monde. C'est un pays qui s'entraide énormément. C'est étonnant l'entraide qu'il y a. Et pas seulement par association, mais aussi tout simplement d'une personne à une autre. J'ai été subjugué justement par cet effort qu'il y a. Alors effectivement, il y a des choses qui ne vont pas, mais c'est pareil, on parle de racisme. On le sait, il y a du racisme. Mais très souvent, quand je leur demandais qu'est-ce que c'est que cette France, ils me répondaient, c'est la chance qu'on ait eu plein de gens qui venaient de partout et que ce pays, il est riche parce que justement, les gens étaient de toute nationalité, de tout pays, de toute couleur. C'est étonnant quand vous entendez ça. Parce que nous, on a des lavages de cerveau, nous tous, par les médias. Je ne suis pas anti-média, hein, mais voilà, encore une fois, on écoute, donc on avale ce qu'on nous donne. Et si on les écoute, effectivement, on est dans un pays quand même qui est très raciste, qui est très... Mais le problème, c'est les superlatifs. C'est toujours pareil.
Alors, Roland Epstein, quand on entend cette question qui est retravaillée à travers celle de l'Hexagone, c'est à la fois la question dans la mouvance de la data art que les photographes vont peut-être nous faire redécouvrir la France d'une autre manière, le territoire et les habitants. Comment est-ce que cette question-là, elle est travaillée selon vous? Alors, la question du territoire, elle est multiple aussi. On a opposé milieux ruraux, milieux urbains, puis à l'intérieur de la ville, on a fait d'autres types de frontières.
Ouais, alors ça me semble votre question me semble d'autant plus pertinente que quand on va voir cette exposition, on voit sur les logos qui sont apposés des institutions publiques et privées qui vont soutenues, on voit le logo de l'ANCT, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, qui est le successeur de la DATAR, hein, une sorte de nouvel avatar de la DATAR. Et effectivement, la DATAR, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en 1984, avait lancé cette grande mission photographique sur les paysages qui a fait date dans à la fois l'histoire de la photographie, mais aussi d'une certaine façon l'histoire des représentations contemporaines, des représentations qu'on peut avoir de la France, des Français. Je vous renvoie à la très belle exposition qui avait eu lieu à la BNF sur Paysages français, une aventure photographique par Raphaël Berthaud et Héloïse Coneza. Et dans cette exposition qui a 3-4 ans, elles avaient aussi souligné une évolution entre la grande mission photographique de 84, celle de France Territoire Liquide, et moi je la vois, ce prolongement de cette évolution en voyant votre exposition, de celle finalement aussi d'une disparition du paysage et de l'apparition des gens. Comme si on ne pouvait plus raconter la France aujourd'hui qu'en faisant ce point très kaléidoscopique, très multiple sur la diversité, non pas des paysages, hein, des fromages ou de je ne sais quoi, mais des gens.
Alors, Renaud Epstein, ouais. Peut-être quelques précisions là-dessus. Il y a eu aussi des grandes photographies, des grands ensembles urbains, ouais. Des villes, des banlieues, de ce qu'on a appelé les banlieues en tout cas. Et là, c'est effectivement plutôt la personne des individus qui est mise en scène.
Oui, parce que même la seule photo qu'on devine étant prise dans un grand ensemble, hein, avec un responsable associatif, et on voit, on le devine vraiment au fond. Au début, on voit une sorte de fond, on sait pas ce que c'est. Quand on regarde bien, on voit ce grand ensemble. Moi, ce qui me semble aussi là frappant par rapport à la fois toute la production des grandes grandes histoires, de ces grandes expos qui essayent de documenter la France, mais aussi sur toute la production beaucoup plus ordinaire, hein, des cartes postales, etc. Moi, j'ai une petite passion pour les cartes postales de Zup. C'est un peu l'impression que j'ai, qu'on ne peut plus décrire la France autrement qu'à partir de cette multiplicité et cette multiplicité des Français. Et ce qui est aussi intéressant quand on regarde les commentaires qui sont les légendes qui sont à côté de vos photos. Alors, j'ai bien compris que ce n'est qu'une partie du travail que vous avez fait, qu'il y a eu un travail de sélection. Mais...
Alors, ce sont des citations d'ailleurs, Yann Morvan, non ?
Tout à fait, ce sont des entretiens qui ont été
verbatim.
Lors des prises de vue. Et donc, ce sont des morceaux choisis, on va dire, d'entretiens.
En fait, ils sont enregistrés. À cette question qui Éric est qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être français aujourd'hui ?
Et ce qui est frappant quand on regarde en tant que spectateur ces bouts de verbatim, c'est d'abord la question du territoire, des lieux, elle disparaît complètement. On définit pas que par là où on habite, alors que c'est un peu l'impression qu'on a ces derniers temps. Hein, les gilets jaunes, ce serait telle France, les cadres métropolisés, ce serait telle zone, etc. Là, vos personnages, ils se définissent pas du tout comme ça. Mais ils se définissent non seulement pas comme ça, mais ils se définissent pas non plus dans les grandes catégories un peu habituelles, héritées, à travers desquelles on se définit ce qu'est être français. Hein, l'identité nationale, cette grande construction qui est une construction politique au 19e siècle, où la construction par les grands récits sociaux, politiques autour des classes sociales. Personne ne se définit pas comme je suis ouvrier, etc. Éventuellement par une profession, mais pas par une classe. Mais
là on voit un premier ouvrier.
Oui,
de France.
Vos personnages se définissent pas. Je suis ouvrier. Même les soignants se définissent pas comme ça. Et ce que je trouve absolument frappant. En revanche, un truc que j'avais jamais vu dans ces termes-là, énormément de verbatim se définissent ce qu'est être français dans un rapport à la globalisation. Dans une sorte de comparaison à d'autres pays, d'autres nations, en disant, voilà, moi je suis fier de français. Ah, votre boucher, charcutier qui dit, par rapport à d'autres pays, nous on est à la fois boucher et charcutier, ou l'inverse, je sais plus. Tel autre qui dit, moi, dans mon pays, là où je viens, les femmes ne peuvent pas être dans les salles de sport. Tel autre qui dit, moi qui viens d'Ukraine, etc.
Rapport aux origines aussi, et dans un rapport comparatif, Yann Morvan, peut-être un mot sur ce sujet.
Oui, je voudrais réagir là-dessus parce que c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a, quand j'avais 14 ans, on me disait, toi t'es un breton. T'es d'origine bretonne. Aujourd'hui, je dirais, je suis un blanc chrétien de plus de 50 ans, hétérosexuel. Et je crois que le rapport a vraiment changé aujourd'hui. C'est-à-dire, on se définit par une appartenance à une religion, à une couleur de peau, à une vie, et plus par un lieu. Il a tout à fait raison. Et ça, c'est tout à fait. Avant, c'était, moi, je suis du Berry ou etc. Et ça n'existe plus. C'est vrai qu'il y a
la vision régionaliste a disparu absolument, au profit d'une vision beaucoup plus internationale.
Absolument. Il y a une disparition du paysage. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Sur l'humanité, c'est-à-dire comment je me définis moi en tant qu'être humain, quelles sont mes racines, d'où je viens et quelle est ma culture.
Alors, en revanche, la question du territoire, elle apparaît en creux parce qu'à travers la représentation des gilets jaunes, à travers la représentation du masque, etc., arrivent aussi les grandes crises qui ont été vécues les 18 derniers mois, les luttes sociales, mais aussi la crise sanitaire, d'ailleurs, qui a créé l'annulation aussi des rencontres d'Arles, entre autres, la crise sanitaire qui apparaît en creux. Et ces questions-là, elles sont aussi liées à ce contexte général. C'est une nouvelle frontière qui s'est créée dans la ville, les 100 kilomètres, par exemple.
Oui, alors...
Dans la région.
Je crois que pour rebondir à ce que vous avez dit tous les deux, il y a une différence. En fait, les gens se sentent bien français, et bon, c'est sûr qu'ils aiment bien leur côté, leur région, ils y sont assez attachés. Mais par contre, la grosse différence, c'est que c'est, à partir du moment où vous êtes en province, ils vous disent, il y a la France et Paris. Et ça, c'est un fossé énorme. Et on le ressent, d'ailleurs, de toute façon, ne serait-ce qu'en se promenant.
Mais ça, c'est pas une nouvelle frontière. Ça, c'est une ancienne frontière.
Oui, mais ça grossit quand même, parce que tout se centralise à Paris, je veux dire.
Mais ça, Marseille, ça l'a toujours été, c'est les origines même.
Par exemple, qu'est-ce qui se passe à Marseille? Je veux dire, c'est quand même minime par rapport à tout ce qui se passe à Paris. Il y a un fossé monstrueux. Alors, et je parle d'une deuxième grande ville. Quand vous êtes à Trifouiller-les-Oies, c'est évidemment pire que tout. Ils sont très remontés contre tout ce qui se passe. Pourquoi tout est centralisé à Paris? Alors que, par contre, encore une fois, les gens se remuent. Ça, c'est très étonnant. Bussang, c'est un bled paumé au fin fond des Vosges. Il y a un théâtre merveilleux, un théâtre en plus qui s'ouvre sur l'extérieur, qui est centenaire. Et là, il y a un directeur. Eh bien, ils ne font que des pièces de haut de gamme. Si je peux me permettre le mot, peut-être s'il m'entend, il ne sera peut-être pas content, mais intellectuel. C'est du très haut niveau. C'est pas des portes qui claquent à la Fédo. Hein. C'est du très haut niveau. Et c'est paumé. C'est un bled paumé. Eh ben, chaque représentation, c'est archi plein. Les gens font 100, 150 bornes pour venir au théâtre. Donc voilà, c'est ça qui est étonnant, c'est que on donne, c'est ce qui manque à cette France. Moi, j'ai trouvé, c'est que ça manque de culture et d'éducation, donc de moyens. Et ça, à partir du moment où on donne la possibilité aux gens, personne n'est plus idiot qu'un autre. Je veux dire, ils savent faire la différence entre quelque chose qui est bon ou mauvais dans son assiette. C'est la même chose pour le reste, ils savent ce qui est bien ou pas.
Et c'est pas évident qu'on ait non plus dit le contraire. Renaud Epstein, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de frontière? Alors on dit Paris et le reste de la France, ça c'est une ancienne frontière. Qu'est-ce qu'on peut dire des nouvelles frontières? Alors à l'intérieur de la France, à l'intérieur de l'Hexagone, mais aussi à l'intérieur des espaces urbains eux-mêmes?
Alors, bon, vous avez raison sur Paris et le reste du territoire. Je dirais que ça, c'est une tension qui est consubstantielle à la construction nationale, hein, le rapport centre-périphérie. D'ailleurs, c'est intéressant parce que on voit derrière ça, c'est moins Paris comme espace géographique que Paris comme centre politique qui est contesté. Sur votre question des frontières, il avait qu'à écouter aussi le discours de Jean Castex hier. On a l'impression que la France aussi serait fragmentée, fracturée. Avec des fractures sociales, pseudo-séparatisme ou je ne sais quoi, mais aussi derrière ça, on entend bien et une lecture en termes de fractures territoriales.
Mais ça, c'est pas nouveau, ça existe dans le paysage.
Non, c'est pas nouveau, mais il y a eu un déplacement absolument spectaculaire au cours des 15 dernières années où, en gros, depuis le début des années 80, quand on parlait de fractures, souvenez-vous, Jacques Chirac, 95, sa campagne sur la fracture sociale et qui s'incarnait dans le discours chiracien sur la fracture entre les banlieues et le reste de la ville. On a vécu du début des fin des années 70 jusqu'au milieu des années de première décennie des années 2000 autour de cette lecture d'une France qui se fracturait avec une fracture qui était à l'intérieur des villes. Il y avait les banlieues populaires, les grands ensembles et le reste de la ville.
Alors vécu comme une unité, hein, des banlieues.
C'était une sorte de grand tout, Mantes-la-Jolie, Vierzon, quartier nord de Marseille, c'est la même chose, hein. En gros, les quartiers de grands ensembles peuplés de noirs et d'arabes. C'était ça la représentation de la fracture. Une ville qui va pas mal et des quartiers à l'abandon. Et on a assisté depuis une dizaine d'années à un déplacement de la lecture de cette ligne de fracture, comme si on passait de l'intra-urbain à une fracture entre les villes, les métropoles, et le reste du territoire, et cette pseudo-France périphérique, avec derrière ça à la fois le périurbain, la France rurale.
Mais la France rurale, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas été réintégrée de cette manière-là dans les débats, Renaud Epstein, à travers la question des Gilets jaunes.
Tout à fait. C'était une question qui avait disparu. En même temps, les Gilets jaunes, je ne pense pas que... c'est un mouvement extrêmement complexe, et on voit bien qu'il y a eu des querelles interprétatives, et notamment dans sa dimension territoriale. Au départ, dans les premiers mois, tout le monde disait, les Gilets jaunes, c'est la France périurbaine. Puis progressivement, on a dit c'est la France des petites villes. Puis c'est la France rurale. Et en fait, c'est un peu, je crois, là aussi, ça nous donne à voir l'extrême difficulté qu'il y a à tracer des lignes de fracture. Il y a des continuums, y compris dans les crises sociales, et ce qu'on répète souvent quand on fait de la géographie sociale, etc. La pauvreté, elle est avant tout concentrée en ville. Les inégalités sont avant tout concentrées en ville, et y compris dans les plus grandes villes, les métropoles les plus globalisées. C'est très compliqué de dessiner des frontières, et votre expo aussi nous donne à voir finalement ce continuum. On voit des personnes, c'est plutôt une France populaire qui est représentée, même s'il y a un peu toute la France, et on voit que derrière, on voit que quand même on devine, il y en a certains qui sont en banlieue, certains en centre-ville, certains à la campagne, certains...
C'est pas deviné d'ailleurs, c'est clairement, c'est explicite, Yann Morvan, hein, quand il y a des photographies d'un agriculteur avec sa vache, il y a quand même des choses qui sont relativement explicites dans ces photos, dans la représentation.
J'ai essayé de donner un maximum d'éléments de compréhension de bon, mais ça fait partie entre guillemets de mon art, c'est-à-dire j'essaye en une image de condenser. C'est ce qu'on apprenait moi j'ai travaillé beaucoup pour les journaux américains dans les années 80, et donc il y avait ce qu'on appelait les 5 W, why, where, when, who et what, et qui était repris de l'Empire romain, hein, les quidum, quantum, etc., les lois de Quintilien. Donc il fallait répondre dans une image. Pour les Américains, ça fonctionnait comme ça. Une bonne image, c'est une image qui répondait aux questions qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi. Et donc c'est un exercice que je continue à essayer de faire, un peu comme une gymnastique photographique. Et donc dans une image, j'essaye de donner le maximum d'éléments. Quand vous parliez tout à l'heure de l'esthétique, c'est-à-dire mon esthétique, elle est liée à ça. C'est-à-dire que quand j'utilise une main qui soit porte un outil, soit une qui a une signification symbolique à chaque fois. C'est-à-dire, c'est mon esthétique, elle est là. C'est-à-dire, elle ne cherche pas à mettre en avant le corps ou un mouvement ou un pas de danse, mais plutôt quelque chose qui a un rapport avec la personnalité de ou sa fonction dans la société.
Alors c'est comme si vous aviez peur que la photographie soit jugée gratuite ou trop belle. J'ai même lu dans une interview que vous disiez que vous n'aimiez pas la photographie. Anne Morvan, comble du comble.
Écoutez, j'ai dû faire 17 livres de photos. Je supporte pas. Je lis que des livres, je regarde pas, j'aime pas les images.
Alors c'est formidable pour un photographe quand même, c'est pas tous les jours qu'on entend ça.
Je suis comme Saint Augustin, moi je suis contre les images, mais j'utilise un peu ce que l'encyclique de Grégoire, je crois que c'est au XIIIe siècle, qui disait il faut apprendre aux gens qui ne savent pas lire à travers les images, c'est le catéchisme, un peu la vie de Dieu. Et donc ça sert un peu à ça aussi.
C'est la visée pédagogique de l'image qui vous intéresse.
Oui, c'est très important, je trouve que c'est très important, et je peux vous assurer qu'avec cette exposition, ça a été pour moi la confirmation. C'est-à-dire que tous ces gens qui passaient, et il y avait des gens très simples, ils se regardaient et ils disaient merci, on existe. Et l'idée, elle est là, c'est qu'à travers l'image, eh bien, on donne l'existence. Et ça, c'est quelque chose... Alors, qu'à travers avec le verbe, puisque au commencement était le verbe, on donne la pensée et le savoir. Ça, c'est des choses qui sont complètement et à la fois complémentaires et qui peuvent paraître antinomiques, mais qui ne le sont pas. Donc moi,
d'autant plus quand on est exposé dans une gare.
Et ça, c'était très important.
Entre deux halls.
Absolument.
Alors, c'est le cas de la gare de Lyon, c'est le cas aussi de la gare d'Avignon.
C'est au cœur des ténèbres. La gare, c'est aussi un long chemin. C'est une voie comme ça, comme un fleuve qui emmène les gens.
Et qu'on est soi-même masqué, pour qu'on regarde vos photos masquées.
Je suis pas masqué, je me cache.
Vous êtes obligé dans une gare d'être masqué. Je vous propose d'écouter Agnès Varda qui parle aussi de ces gens qu'on n'écoute pas, pour le coup. C'était sur France Inter, le 16 décembre 2017.
Gérard et moi, on avait le même but. C'est-à-dire, mettre les gens en valeur, les gens qu'on a rencontrés, et en les écoutant, en les faisant parler, et avec les images de JR, en les faisant très grands, avec leur accord. Tout d'un coup, ils devenaient des géants ou des géantes. Et cette idée qu'il faut mettre en valeur des gens qu'on n'écoute jamais. Bon, on sait bien qu'il y a toutes sortes de travaux qui sont faits pour mettre en valeur les autres, mais quand même, on est dans un star system, on est dans un système d'argent, on compte les entrées et tout ça. Je comprends. Mais nous, on essaie de faire un truc en grande liberté. Et surtout, notre idée, c'était de mettre les gens en situation d'inventer eux-mêmes. C'est pas seulement question-réponse, c'est une conversation. J'ai quelquefois entendu des gens dire des choses tellement inattendues et tellement belles qu'on avait envie de les remercier d'avoir eu des idées.
Alors sur cette idée, Yann Morvan, ces deux idées, à la fois de faire, de rendre visibles ceux qui ne le sont pas, même d'en faire des géants, c'est votre idée de la chambre qui représente grandeur nature, en tout cas en grand format, mais sur cette idée aussi de collaborer, de faire collaborer les gens qui acceptent d'être photographiés, qui sont auteurs des textes.
Écoutez, il y a un boucher qui s'appelle, son prénom c'est Romain, à l'exposition, et il est venu, il s'est fait photographier, et maintenant il a, dans le journal du 15e, il est boucher dans le 15e, meilleur ouvrier de France, il a fait un placard, lui à côté de la photo, et là il y a eu un papier d'un journaliste en disant, Romain Leboeuf, c'est son prénom, donc il est tellement fier d'être dans la photo, etc. Je pense que ça lui fait venir des clients, donc il y a un côté très très positif.
Presque publicitaire.
Oui, et donc quelque part il est à la fois content de participer, et deuxièmement, ça, pour sa clientèle, c'est aussi, disons, une mise en majesté. Donc il y avait cette idée aussi, moi quand j'ai commencé à faire de la chambre dans les années 80, j'étais fan j'avais photographié Lady Di, j'avais fait une photo qui avait bien fonctionné, et puis bon, j'étais fasciné par le personnage de Lady Di, j'ai vu de près, elle était incroyable, et j'étais complètement amoureux des princes et des princesses d'Angleterre.
Différent des gilets jaunes que vous avez pu photographier.
Oui, mais c'est, quelque part, ils doivent avoir autant de soucis les uns comme les autres, ça ne doit pas être simple.
C'est pas les mêmes.
D'être prince et c'est pas les mêmes. Et donc je m'étais intéressé à la représentation des princes et princesses, et j'avais travaillé avec un photographe anglais qui s'appelait Lord Snowdon, qui était le photographe de la couronne, et j'avais étudié ses photos, ses lumières, etc. Et j'avais commencé comme ça. Et évidemment, comme je suis un mauvais élève, j'avais fait tout le contraire. C'est-à-dire j'avais commencé à photographier au Liban des miliciens, etc. Après j'avais fait en France, j'avais fait des voyous, etc. Donc j'avais utilisé le principe, c'est-à-dire opératoire, c'est-à-dire technique du photographe de la couronne pour photographier justement les gens qui ne seront jamais à la couronne. Et là, je réapplique toujours ça, c'est-à-dire je prends des gens qui à aucun moment on pourrait penser d'utiliser ce type de matériel pour les mettre en majesté. L'idée étant que on est tous chacun, on a quelque chose, on est unique. hein, et on est tous différents et on est tous formidables. Hein, bon, moi, ça, j'aime pas ce mot, mais que la chambre 2025, c'est l'outil des rois et des reines et on va l'utiliser pour ceux qui ne le sont pas.
Alors, pardon, mais comment on échappe au politiquement correct aussi à travers ce prisme-là, Yann Morvan, est-ce qu'il n'y a pas un risque de représenter tous ceux que l'on dit invisibles et de faire des catégories immenses, un peu fourre-tout de l'Hexagone?
Bah écoutez, non, là je ne comprends pas la question, parce que l'idée étant de... Alors, il y a des tas de gens qu'on n'a pas photographiés, qu'on n'a pas pu photographier. Par exemple, le vrai problème de la France aujourd'hui, c'est la culture du non. J'en parlais hier avec les gens...
C'est quoi la culture du non ?
La culture du non, c'est de dire non. C'est-à-dire qu'on a en permanence. C'est-à-dire que on demande quelque chose et on nous dit non. On a essayé de faire Airbus, le BTP, les choses comme ça, c'est non. Non, non. Pourquoi non ? Oh bah parce qu'on ne sait pas, etc. Pourquoi le non ?
C'est la méfiance en tout cas.
Non, c'est parce qu'on ne prend pas de risques. En France, on prend très peu de risques. Les gens sont très conservateurs, ils ne veulent pas. Et surtout pour la photographie et les médias, ils ont tellement été... Dans les années 80, moi je photographiais ce que je voulais, je pouvais aller dans les usines, etc. Aujourd'hui, il y a eu tellement de problèmes. C'est-à-dire, vous rentrez avec un appareil photo, une caméra, là, il y a toujours un DIRCOM, etc. Et il a une bonne place. Pas très compliqué, donc il n'a pas envie d'avoir des soucis avec quelqu'un qui va raconter des fadaises ou des choses comme ça. Donc c'est non. Donc on a quand même, on voulait aussi tous les corps régaliens, par exemple la police, l'armée, même impossible à photographier, ou alors il faut des demandes ou connaître. Donc si vous voulez, il y a tout un tas de Français qu'on n'a pas pu faire.
Ou alors faut pas représenter les visages.
Oui, ça c'est compliqué hein, aussi. Non, mais même, vous pouvez pas les avoir en tenue parce que on ne sait pas comment vont être utilisées les choses. C'est-à-dire, on est aussi dans un pays aujourd'hui qui a peur, dont les gens ont peur, un pays de méfiance et un pays du non.
Alors, comment vous avez fait, Éric Bouvet, le casting du coup? Comment est-ce que vous avez pu rencontrer des gens, dialoguer avec eux et faire en sorte qu'ils acceptent d'être photographiés? Parce que encore faut-il que eux aient le souhait de devenir visibles et d'être représentés.
Vous nous avez nommé au début photojournaliste, donc dans ce mot il y a journaliste. Voilà, on a l'habitude.
Hein, c'est la bouteille en fait qui a fait ça. Vous avez de la bouteille.
Oui, merci. Je croyais autre chose.
non, pas du tout.
Il boit pas. Il boit pas.
Donc du coup, nous avons fait un travail de recherche, tout simplement. On a l'habitude. Hein, nous sommes indépendants depuis des décennies, donc on sait travailler. Nous savons travailler tout seul. Voilà, on a fait un travail de recherche tout simple, un casting qui nous semblait logique d'essayer d'avoir cette France diverse et variée.
Mais concrètement, ça veut dire quoi? Vous êtes allé voir les gens dans les villages, vous les avez convaincus en les rencontrant,
non,
ça veut
tout,
dire comment? C'est un travail de recherche?
Il faut lire la presse locale, hein, la PQR, il faut chercher sur le net, il faut aller un peu dans les musées, il faut chercher dans les livres, et puis vous tombez sur des histoires, sur des gens. De temps en temps, vous avez un copain, un journaliste qui vous dit « Ah bah tiens, mais je me rappelle, il y a un... » Bon, voilà, donc de temps en temps, ça aide, effectivement. Mais voilà, non, c'est un gros travail de recherche.
Mais qu'est-ce qui était mis en avant? C'était les parcours individuels, c'était l'appartenance à certaines catégories sociales, catégories aussi géographiques?
Oui, c'est un petit peu tout, mais c'était surtout intéressant, c'était c'est le parcours de cette personne. Et c'était surtout ça, moi, qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qu'ils ont à dire, ces gens? On leur a donné la parole, quoi. C'était assez impressionnant, parce que quand on, à chaque fois, les gens étaient très fiers. Vous vous rendez compte, on a fait, si on enlève le paysage, disons qu'on en a fait à peu près 300, entre 300 et 350. Voilà. Ils se disent, mais on est parmi les 70 millions de Français, on va être un de ces 350. Ils étaient extrêmement fiers. C'était, et je me mets à leur place, c'est logique, vous êtes choisis quand même. Donc c'est royal, pour reprendre les mots de Yann. Par contre, juste par rapport à tout à l'heure, je pense que la photographie est très complexe. Et, nous avons l'habitude en tant que photojournaliste, justement, où il fallait qu'on montre tout. Voilà. Bon, aujourd'hui, je pense que cette série, on peut dire que c'est une série de documentaires, social documentaire, on n'est pas obligé de tout montrer. Parce que si vous montrez tout, vous donnez toutes les informations tout de suite. Alors que, justement, c'est là où la chambre est intéressante, c'est qu'elle se focalise sur quelque chose, donc en l'occurrence sur nos gens, et si on ne voit pas très bien derrière où on est, tant mieux.
Mais alors, vous dites documentaire, Éric Bouvet, et en même temps, il y a la mise en scène dont parlait Yann Morvan.
Mais on
ne
fait pas du tout les mêmes photos.
Alors, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a une tension là entre les deux objectifs. Vous dites photo-documentaire, Éric Bouvet,
d'abord,
quand même représentatif d'une réalité, même subjective.
Oui. Non, nous sommes pas mariés, heureusement pour lui et pour moi d'ailleurs. Et non, on nous surnomme la glace et le feu. Donc voilà, donc au moins c'est clair. Mais l'entente était plus que cordiale puisque nous sommes arrivés au bout et je pense qu'on se respecte très bien l'un et l'autre et on apprécie. Nous apprécions pour X raisons. Mais moi, j'ai pas, non, la mise en scène m'intéresse pas. C'est vraiment quelque chose pour moi où les gens sont là et alors, en tant que photographe, évidemment, je faisais attention à la lumière et ce qu'il y avait derrière, au cadrage, mais ils sont là.
Alors, Yann Morvan, je me retourne vers le metteur en scène, hein, Yann Morvan à ma gauche.
Cécile B2000.
Vous, il y a un travail de mise en scène,
absolument,
vous le dites.
Oui, sur chacune des images. J'ai une méthodologie de travail.
Comment ça fonctionne?
Ma méthodologie de travail? Oui. Bon, d'abord la recherche. Je vais vous donner un exemple très simple. Là, vendredi, je pars au château de Plessis-Bourré. Ça fait depuis 6 mois que j'essaye de photographier l'arrière et l'arrière-petit-fils du maréchal Soult. Vous savez que le maréchal Soult, lors de la campagne de Napoléon à Waterloo, il a sauvé la vie de l'empereur. Donc, et je suis pas napoléoniste, hein, ne croyez pas ça. Et ça fait depuis 6 mois que j'essaye de le photographier. Donc, j'ai pris contact à travers des gens qu'il connaissait, etc. Il a accepté de me recevoir dans son château, là où je serai vendredi, samedi, dimanche. Je lui ai demandé quelle est la tenue que son arrière-arrière-grand-père portait lorsqu'il a sauvé l'empereur, et à l'endroit où finalement il s'était rencontré dans le château, ou comment ça s'était passé. Donc, si vous voulez, je fais un travail. Pourquoi Soult? C'est qu'il existe encore quelqu'un qui s'appelle Soult, qui est l'arrière-arrière-petit-fils. Donc, je voulais parler de Napoléon, parce que c'est la France aussi, c'est l'Empire. Hein, c'est toujours, donc,
après les princesses, les empereurs.
Voilà. Un, j'ai là le personnage qu'il faut. Et deux, je vais le faire à l'endroit avec le costume qu'il faut. Donc à chaque fois, je réunis les éléments. Donc une fois que j'ai les éléments, ensuite je choisis mon cadre, ça s'appelle le cadrage. Ensuite la personne, et là, je vais parler avec lui pour lui demander comment est-ce qu'il va, comment il souhaite se comporter sur la photo. C'est-à-dire, est-ce qu'il tient un sabre ou pas? Comment était son... Et on va travailler comme ça.
Donc
ça,
il y a une dimension participative importante.
Ah bah oui, c'est eux qui font l'image. Ah tout à fait, c'est eux qui font l'image. C'est-à-dire à chaque fois, je leur demande, mais alors vous êtes comment? Pourquoi vous mettez les mains là? Comment vous...
Donc c'est de l'auto-mise en scène aussi.
Oui, non, mais il faut qu'ils soient, qu'ils aiment la photo. C'est-à-dire, il faut qu'ils disent, ça c'est ma photo, c'est quelque part. Écoutez, on va pas dire ça, je veux dire... Souvent, je dis, bon, demain, sur votre lit de mort, vous voulez une photo, vous voulez être représenté comment? Je suis là pour ça. Donc, c'est eux qui choisissent. Moi, je suis qu'un opérateur.
J'entendais des cris de gens, mais c'était dans ma tête. Si je m'écoute penser, je suis plus dans la fête. Je fais comme je le sens, c'est pour ça qu'on m'apprécie. Ça fait un bout de temps maintenant que j'ai la belle vie, je suis tout le temps avec. Si je te fais ski, me prends pas la tête. Paix, force et merci à ceux qui me donnent l'énergie. Mes gars de Bercy, mes gars de Berby. Quand je touche de l'argent, c'est ce que je fais avec. Je traverse pas le périph' et je fais pas la fête. Faut que je réinvestisse, danse pour moi, baby. Ça fait un bout de temps maintenant. Personne pourra nous enlever ce qu'on a dans la tête. J'suis avec Size, musique dans la caisse. J'fais ça pour la West Side, bien sûr pour la S. Ça fait un bout de temps maintenant. Ce n'est qu'une question de temps. J'fais tout comme je le sens. Plus tu donnes, plus tu prends. J'ai de l'amour. J'entendais des cris de gens, mais c'était dans ma tête. Si je m'écoute penser, je suis plus dans la fête. Je fais comme je le sens, pour ça qu'on m'apprécie. Ça fait un bout de temps maintenant. Maintenant que je suis constant, que je suis dans la pièce. Je les ai tous remplacés dans leur chaise. Je pense que ça valait le coup d'éviter la tête. Ça fait un bout de temps maintenant. Maintenant qu'on est plus, qu'on est assez grand. On vient chercher les thunes qu'on a laissées tomber. On a peut-être pas fait d'études, mais on s'est pas planté. Nos mères, elles sont contentes maintenant, pas de temps. Maintenant qu'on est plus, qu'on est assez grand. On vient chercher les thunes qu'on a laissées tomber. On a peut-être pas fait d'études, mais on s'est pas planté. Nos mères, elles sont contentes maintenant. Ce n'est qu'une question de temps. Je fais tout comme je le sens.
Did you?
Et on vient d'écouter Ichon maintenant. Le nouvel album d'Ichon pour de vrai sortira le 11 septembre prochain.
France Culture, la grande table d'été. Par Maëlys Bessery.
Qu'est-ce que c'est les grands ensembles ? Le monde change d'une façon absolument accélérée. Les conditions de vie changent. L'habitat de l'homme change. L'homme lui-même change. Et nous obstinons, quand je dis nous, tout le monde, de garder les conditions d'hier en micrographie comme les conditions de demain. Voilà la naissance des grands ensembles. Mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire grand. Quelque chose est grand en comparaison avec quelque chose qui est plus petit. La même chose devient trop petit s'il est comparé avec un autre élément qui est plus grand encore.
Je crois que par grands ensembles, nous voulons parler presque de villes construites à partir de rien, sur la terre où il y avait la veille des betteraves, à côté de grandes capitales.
Alors c'est justement cela le problème, qu'on n'a pas construit des villes. Mais on a bouché des trous.
On a bouché des trous. Georges Candilis, on entendait l'architecte et urbaniste grec, c'était le 5 novembre 66. Renaud Epstein, je me tourne vers vous. Les mutations dont on parlait tout à l'heure, les mutations du territoire et du paysage urbain. Alors là, quand on parle des grands ensembles et qu'on le présente ainsi, on a bouché des trous. Qu'est-ce que... Bon, évidemment, vous opinez du chef.
Alors, j'opine du chef sur les grandes transformations sociales et urbaines, sur boucher des trous, bon, l'expression est imagée.
Un peu ironique assez, aussi.
Oui, c'est un peu éloigné en réalité de ce qu'a été aussi la réalité de la production urbaine. Mais ce qui est frappant avec les grands ensembles, et au regard de toute la discussion qu'on a eue sur votre travail, c'est que les Trente Glorieuses, grand moment de production de ces grands ensembles, c'est une phase historique au cours de laquelle il y a eu simultanément une très grande transformation sociale. On est passé à une société urbanisée, de classe moyenne, etc. Et une grande transformation de la morphologie, de la forme des villes et des paysages urbains. Et il y avait finalement quelque chose qui était assez lisible dans cette période, dans les transformations de la société française, à la fois d'un point de vue social et d'un point, dans sa représentation, dans l'image qu'on pouvait s'en faire, ne serait-ce qu'en dans la forme du territoire français, dans la forme urbaine et dans la représentation qu'on pouvait s'en faire. Les grands ensembles ont aussi été un petit peu un marqueur de cette grande transformation, y compris dans la photographie. Alors avec, par exemple, dans les Trente Glorieuses, cette production de cartes postales, on a produit pendant un siècle des cartes postales avec, pour chaque village, son église. Et la France, elle s'incarnait visuellement. La France, un village, une église. Et puis, à partir des années 60, c'était une ville des grands ensembles, qui était le motif qui se reproduisait à l'identique dans toutes les villes.
Et aujourd'hui, plus de paysages, c'est ce qu'on disait.
Non, mais aujourd'hui,
ou moins de paysages.
Tout à fait. Mais aujourd'hui, en revanche, dans la photographie, alors moins dans votre exposition, mais quand même dans la production photographique française, les grands ensembles occupaient une place absolument démesurée ou très importante dans les années 90-2000, parce que justement, c'est ça ce qu'on disait tout à l'heure, ça incarnait la crise, hein, et puis ça faisait des belles images, etc.
Y compris au cinéma.
Au cinéma, dans la photo, partout. Et on a construit aussi, derrière ça, cette représentation un peu unitaire. Ça nous faisait une certaine lecture de la société, dans sa transformation sociale.
Et comme un bloc de béton.
Comme un bloc de béton et comme certaines populations. Parce qu'il y a aussi, et ça fait écho aussi à votre travail, sur l'adéquation entre les lieux et les gens. Progressivement, les grands ensembles, on s'est construit une représentation de sa population, qui est par ailleurs assez éloignée de ce qui est la réalité de la population des grands ensembles. Comme, et finalement, qu'est-ce que c'est que les grands ensembles ? C'est la métaphore ou la métonymie aujourd'hui pour parler des minorités visibles, hein, des immigrés, de leurs descendants.
En tout cas, ceux qui y sont relégués. Oui. Vous parlez des cartes postales. C'est pas pour rien que vous parlez des cartes postales, Renaud Epstein, c'est parce que vous êtes un grand collectionneur de cartes postales, vous les prenez en photo, vous les tweetez, vous avez même été vous aussi aux rencontres d'Arles pour ces cartes postales. Peut-être quelques mots sur cette activité que vous avez justement, de garder une sorte de trace mémorielle de ces grands ensembles, en tout cas de la représentation qu'on a pu se faire de ces territoires-là.
Oui, il se trouve que moi, dans mes travaux de recherche, j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la politique de la ville, la politique de rénovation urbaine, c'est-à-dire la politique politique de démolition de ces grands ensembles qui amorçaient depuis le début des années 2000 et sillonnant les quartiers, un peu comme vous, pour faire moi mes enquêtes, j'ai été frappé de voir que tous ces quartiers sur lesquels on a un regard qui est finalement très sombre, très négatif, y compris du côté du monde architectural, etc., de se rendre compte que ça a fait l'objet d'une production absolument colossale de cartes postales dans les années 60-70. Et au moment où finalement ces quartiers étaient si stigmatisés, au moment où ils disparaissaient, moi je trouve que j'en avais accumulé un certain nombre, je me suis mis à les remettre en circulation sur Twitter, pour aussi, avec cette vision de cartes postales qui est toujours enjolivé, il fait toujours beau, on prend les photos.
En même temps, ces grands ensembles dans les années 60, la fin des années 60, quand ils ont été construits, on en a été très fiers aussi. Ils ont été, avant d'être finalement stigmatisés, ça a été des espaces de fierté aussi.
Alors, c'était une sorte de fierté nationale, hein, sur le mode, comme on a fait le Concorde, on a fait la plus longue barre d'Europe, au du Lièvre à Nice, etc. Il y avait aussi une fierté des premiers entrants, c'était moins une fierté que, tout simplement, la satisfaction de sortir des taudis et d'arriver dans des conditions de logement décentes. Et puis, il y avait une sorte de fascination de l'entrée de la France dans la modernité, dans le régime de la grande consommation, la voiture, l'eau chaude, etc. Mais on a aujourd'hui, même maintenant, à la fois un regard très stigmatisant sur ces quartiers, mais un regard rétrospectif sur une sorte d'âge d'or, sur l'idée que au départ, ça allait bien, et puis il y a quelque chose à merder, on ne sait pas quand, etc. Mais en réalité, quand on reprend aussi la presse ou les travaux de l'époque de leur livraison, on se rend compte que dès le moment de leur livraison, il y avait un rapport très ambigu ou une tension entre la satisfaction de sortir des mauvaises conditions de logement, d'avoir accès à la lumière, au confort ménager, etc., mais aussi des critiques des premiers habitants sur les déficits de vie sociale, il n'y avait pas d'équipement, sur l'insonorisation, on entendait la voisine, le voisin qui se déplaçait. Voilà, il faut se méfier de ne pas reconstituer une sorte d'âge d'or des grands ensembles mythiques qui...
Alors, outre la question de la politique de la ville, Renaud Epstein, sur la question de votre entreprise photographique, justement, peut-être un mot. Alors, vous savez, Yann Morvan, il fait exactement ce que vous aimez pas, c'est-à-dire du numérique à partir d'une carte postale et qu'il tweete. Alors, il y a les réseaux sociaux par-dessus.
Il a raison. L'important, c'est l'information. Donc, chacun son outil. Et je pense qu'une carte postale qui est déjà une représentation qui a déjà été faite, c'est formidable de la numériser. Moi, j'utilise Internet en permanence. Chaque fois que je vais faire sur un sujet, j'utilise toutes les données photographiques que je peux avoir sur le net. Ça a été une révolution, Internet.
Notamment dans le travail mémoriel.
Regardez-moi,
aussi.
Par exemple, avant de venir ici, j'ai appris que vous aviez eu le Goncourt des jeunes auteurs. Je connais toute votre biographie, votre âge.
Il sait y faire.
Et je tiens à vous féliciter d'ailleurs. Je n'ai pas apporté pour la dédicace, mais la prochaine fois, quand vous m'inviterez. Et si vous voulez, Internet a ouvert des champs de la connaissance extraordinaires. Alors bon, et tout est comme ça. Là, on parlait des grands ensembles. Moi, je me rappelle du vide-ordure. Ça a été un truc extraordinaire de mettre. J'avais un oncle qui habitait à Cité des 4000. Et quand je venais à Paris, je travaillais au Bourget. Je déménageais les avions et j'habitais chez lui.
Vous déménagiez les avions?
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait les cargos Bourget, vous savez, la nuit, vous enlevez il y avait des cornes d'éléphants, des choses comme ça. Oui. C'est chargé, oui. Quand j'ai déménagé, c'est un peu la même chose. Et donc, j'habitais chez lui, et le grand bonheur, c'était de voir d'un vide-ordure. Il disait, oui, mais même toi, chez ta mère, t'as pas un vide-ordure comme ça à domicile.
Alors, signe de modernité aussi.
Absolument, et c'était ça, c'était vu comme ça. Et aujourd'hui, c'est devenu... Là, j'étais à la Grande Borne, j'ai fait un livre qui s'appelle Gang Story, où j'ai passé du temps à la Grande Borne. Et Kizo, là, qui est photographié donc à Hexagone, c'est un des médiateurs de la Grande Borne. Alors, on prépare un autre Gang Story 2, etc. Parce que, bon. Et la Grande Borne, ça a été, au début, par cet architecte, c'était un espace avec de l'art, qui était fait pour la vie des gens. Maintenant, c'est devenu, excusez-moi, ça a été, quand j'y étais dans les années 90, parce que je fais des sujets qui durent 10, 15, 20, 30 ans, dans les années 90, les plaques de béton tombent. C'était une véritable poubelle, parce que ça n'avait pas été fait pour durer. Et alors qu'au départ, c'était une cité rêvée. Alors, à 25 km de Paris, la campagne, etc. C'était, l'architecte en a fait deux, je crois, et c'était considéré comme un Eldorado. Et c'est devenu un enfer. Et donc, il y a toujours cette ambiguïté dans l'être humain. C'est-à-dire, comme la voiture. La voiture, c'est formidable, mais ça peut tuer des gens. Donc, ça dépend ce qu'on en fait, quoi. C'est comme Internet.
Mais alors, vous, dans les représentations que vous en offrez à Yann Morvan, puisqu'on a parlé de la longévité de votre cette carrière et 45 ans de photos, est-ce que vous représentez l'Hexagone différemment dans cette exposition l'Hexagone? Est-ce que justement les espaces y ont moins d'importance qu'avant? Est-ce que c'est vous qui vous êtes recentré sur les visages et sur les corps? Ou est-ce que c'est finalement vous êtes pris dans une entreprise collective qui est celle de la photographie? Qui s'intéresse peut-être moins au paysage urbain ou pas, d'ailleurs.
Quelque part, j'essaye de m'affranchir du décorum, c'est-à-dire de tout ce qui est autour. J'y crois de moins en moins. C'est-à-dire, bon, je parle pas du paysage, de la nature, ça c'est autre chose. Mais quand on parle des grands ensembles, etc., quelque part, ça ne m'intéresse plus. Effectivement, j'ai sorti pas mal de livres sur les banlieues et où on voyait énormément. C'est exactement ce que disait M. Einstein, c'est-à-dire on voyait, c'était un marqueur. Social, c'est-à-dire voilà, les gens ils habitent là-dedans, c'est des voyous, c'est des populations.
Mais pas dans vos livres, vous disiez, c'était pas ce qui était signifié.
Si. Non, mais c'était un marqueur social. C'est-à-dire, on faisait un livre sur les banlieues, sur les gangs, il fallait montrer ça. C'était indispensable, les éditeurs pensaient ça. C'est exactement. Aujourd'hui, on le ferait plus. Parce que, disons, il y a aussi saturation. C'est-à-dire, ça va, on sait, on connaît, voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les gens. Pourquoi? Parce que les gens se sont radicalisés. Mais
peut-être, on sait aussi que c'est pas une unité, la banlieue, que ça veut pas dire grand-chose de dire que toutes les banlieues sont
différents,
identiques.
Il y a un tas de religions, de cultes, il y a l'arrivée du féminisme aussi, qui a tout changé. Parce que les banlieues, dans les années 70, 80, les femmes, elles ne sortaient pas. Aujourd'hui, elles sont dehors. Elles exprime. Donc tout ça a changé. Et ça fait des paroles.
Ça fait rire, Renaud Epstein.
Non, ça fait rire parce que, ça me fait rire parce que ce que vous venez de dire, c'est le retournement, c'est l'inverse d'un certain discours politique qui consiste à dire ah là là, aujourd'hui, dans les quartiers, les femmes ne peuvent plus sortir, sous-entendu, la religion, en particulier l'islam, serait cette grande menace qui menacerait ce qui fait la France, à savoir l'égalité femmes-hommes. Ce que vous venez de dire l'inverse. Moi, je pense que, je partage ce que vous venez de dire. Je pense qu'il y a un certain nombre de discours.
Oui, mais tout ça existe. Tout ça existe. La seule chose, c'est quelle part on donne à ces informations.
Et qu'est-ce qu'on montre? Et qu'est-ce qu'on montre de manière prioritaire?
C'est pour ça que je reviens tout à l'heure à ce que je disais. Voilà, on a travaillé dans les médias et on sait très bien qu'on peut prendre un quart des choses et le remplir et lui donner...
Oui, mais c'est pas... Le problème, c'est que les gens ne vont pas sur le terrain pour deux raisons. D'abord, il y en a qui ont peur, et après, il y a un manque de moyens. Donc, pour aller sur le terrain, ça demande des moyens. Ça veut dire se déplacer.
Quand vous dites les gens, vous voulez dire les journalistes?
Les journalistes, oui. Les journalistes. Moi, j'ai formé tout un tas de journalistes à l'école du Louvre, etc. Et je me rappelle dans les années 90, où j'étais rue du Louvre, à l'école où il y avait des tas de gens. J'ai rencontré d'ailleurs Gisbert, Olivia, là-bas. Hein. Et c'était pas son cas, mais les trois quarts voulaient être secrétaires de rédaction. En gros, l'idée du journaliste, c'était je me marie, j'ai deux enfants, des RTT, et je reste au desk et je fais mon boulot comme ça. Et éventuellement,
c'est
je deviens rédacteur en chef adjoint et ou patron de la chaîne, etc. Donc ça, c'était le truc. Et je leur disais, les gars, non, c'est pas ça. Le journaliste, c'est pas ça. Le journaliste, il commence en bas de chez vous. Et le problème aujourd'hui, c'est que les journalistes vont plus en bas de chez eux. C'est-à-dire, il y a un entre-soi. Bon, pour deux raisons. La raison, c'est pas évident. Je veux dire, vous allez dans les banlieues, les journalistes sont pas bienvenus. C'est un travail sur des années et des années qui permet de s'intégrer, même dans tout. Il y a un refus. Et donc, les gens ont peur. Ils sont pas formés aussi. Et puis, il y a aussi un manque de moyens. C'est-à-dire, même le type qui est très motivé, il va dire, écoute, je veux commencer une enquête. J'ai travaillé pendant, il me faut un mois pour le faire. On va dire, écoute, t'es gentil, Coco, on va pas te payer un mois pour faire un bon papier, on peut récupérer ça à droite, à gauche. Donc, le problème, il a. Nous, on a eu la chance de pouvoir, on s'est donné les moyens, c'est-à-dire avec le temps, l'expérience et puis les réseaux qu'on a, de pouvoir travailler sur le long terme. Mais un journaliste qui commence aujourd'hui, qui a, disons, 25 ou 30 ans, il aura pas ça, il pourra pas faire ça, on va le foutre derrière un écran, il va faire des copier-coller, etc., il comprendra rien. Il va commencer à raconter des bêtises, et c'est tout.
Et donc, on a eu cette chance, nous, de commencer à cette période, dans les années 80, moi, 80, toi, 70, c'est qu'il y avait l'argent dans les magazines, la presse avait l'argent, on pouvait partir. On pouvait passer un mois en Afghanistan, on pouvait mener des enquêtes, on pouvait... des fois on revenait avec rien, mais très souvent on revenait avec ce qu'il fallait, et on s'investissait. Et pour finir là-dessus, c'est que les gens s'imaginent toujours que c'est un métier passion, mais ils sont complètement à côté de la plaque. C'est pas une passion.
Non, ils détestent la photo, Yann Morvan,
mais non. C'est un engagement d'une vie. C'est ça le journalisme. On triche pas avec ce boulot.
Pas assez intelligent pour écrire, c'est pour ça que je fais des photos.
Mais Renaud Epstein, sur la question politique, puisqu'on parle des représentations, des images qu'on donne à voir et qu'on diffuse, hein, y compris dans des grandes images qu'on diffuse dans des gares, les représentations qu'on donne, elles ont été aussi relayées par des discours. On parlait du discours politique. Alors la fracture sociale, il y a certes eu les années Chirac, et puis il y a d'autres discours qui sont apparus. Hein. Alors il y a l'analyse de Christophe Guilly qui a été donnée. Il y a eu aussi plus tard le discours du président Hollande qui a essayé de modifier ce contexte-là. Ouais. Voilà. Peut-être on peut revenir sur ces représentations-là.
Oui, alors avec aussi la complexité derrière ce mot, parce que là, on est en présence de photographes, et la question de la représentation nous donne une idée visuelle.
Oui, mais avec un discours, hein, on l'a dit, un discours aussi qui accompagne.
Un discours, mais le discours là, il est très présent parce qu'on est à la radio. Quand on va à l'exposition, quand même, c'est frappant de voir la faible place qui est laissée au texte.
Moi, j'ai trouvé ça énorme pour une expo photo. Mais, j'ai pas le même sentiment.
Mais derrière la représentation, il y a aussi évidemment ce que vous indiquez là, c'est aussi les représentations politiques, c'est-à-dire la capacité à produire une vision qui donne un sens à cette réalité sociale qui est par définition multiple.
Et aux luttes. Et aux luttes, parce que c'est quand même ce prisme-là, celui d'Éric Bouvet en tout cas, est très marqué.
Non. Je veux pas qu'on me file cette étiquette. Non. Je me suis intéressé à toutes sortes de gens. Je suis allé photographier aussi la directrice d'Ariane Espace. Donc, non. On a vraiment.
Il y a quand
respecté...
même un contexte d'actualité, même si vous dites que vous avez pris quelques petits pas de côté par rapport au journalisme. La France, la Covid, par exemple, est présente.
Alors ça, c'était une volonté, oui, de dernier. Ça, on a mis une dernière couche, excusez-moi le terme, mais par rapport à ce qui se passait, et ça a été une volonté commune avec Gare et Connexion et les Rencontres d'Arles. On ne pouvait pas exposer ça et passer à côté du Covid. Donc du coup, moi, je me suis attaché à faire les gens du personnel hospitalier, et Yann s'est attaché à faire ses métiers en première ligne.
Mais ça, c'est quelque chose qui est très frappant en tant que spectateur quand on voit votre exposition, justement du point de vue de la représentation de la société, du titre Hexagone, qu'est-ce que c'est que la France, cette présence des services publics. Alors, à la fois dans les photographies avec tous ces soignants, mais aussi dans certains des textes qui sont associés à d'autres personnes qui définissent comme qu'est-ce que c'est que la France et qui insistent sur les allocations pour certains, les services publics pour d'autres, et même du côté des spectateurs. Parce que quand vous allez, moi j'ai été voir cette exposition cette semaine, et il y a un tag. C'est une des grandes photos avec trois hommes visiblement bien nés. Et avec une petite... visiblement, c'est comme ça qu'on les voit en tant que spectateur. Et dans le texte qui est à côté, il y a un truc, un des verbatims, et il dit, oh, un pays, il y a trop de fonctionnaires. Et il y a quelqu'un qui est venu, qui a barré avec son marqueur trop de fonctionnaires, et qui a mis pas assez de services publics. Et je trouve que dans cette intervention d'un spectateur, qui fait pour moi écho aussi au propos de votre exposition, ça nous dit finalement, puisque c'est ça la question que vous posez, c'est qu'est-ce que c'est qu'être français ? Est-ce que finalement, dans ce qu'on voit, c'est ce qui fait aussi la France, ce qui fait la construction politique, la construction de l'identité nationale, c'est aussi ça. C'est aussi ces services publics. Et ça, c'est pas une découverte. Je dirais qu'en sciences politiques, quand on fait un cours en première année en amphithéâtre, quand on faisait des cours en amphithéâtre, on apprend que dans la construction étatique et la construction de la nation, c'est bien l'État qui a construit la nation à travers des symboles, liberté, égalité, fraternité, des mairies, etc. Mais aussi avec ces services publics. Et je trouve que c'est assez frappant de voir cet attachement qui est retranscrit aussi à les services publics, qui sont aussi des choses qui organisent nos interdépendances, qui font que derrière cette multiplicité, cette diversité, on est chacun singulier, on se veut être reconnu.
Alors en particulier en période de crise sanitaire.
Voilà, mais on prend conscience de ce qui aussi fait lien, et ce qui fait France, ou ce qui fait qu'il y a quelque chose qui nous relie tous, c'est aussi ça. Ce sont aussi ces services publics.
Alors peut-être juste un mot, Yann Morvan, sur cette question de la répartition sur la crise du Covid, de la Covid. Justement, cette volonté de représenter quand même ces masques...
Oui, on pouvait pas montrer des portraits de Français sans montrer ce qui s'est passé, parce que d'abord, pour une première raison, c'est qu'on n'a pas fini Hexagone, on n'a pas fini.
C'est un peu infini comme projet d'une certaine manière, non ?
Oui, mais c'est comme ça. Moi, j'ai commencé, mais mon premier travail, ça a été en 75, c'était les Anges de l'Enfer. Là, je suis sur un gang 2, je continue à les photographier. On est en 2020, d'accord ? Et je pense qu'on ne s'arrête jamais. On photographie les mêmes choses. C'est une névrose, peut-être, ou quelque chose de... Et on avait ces Français qui avaient travaillé, qui portaient des masques. Alors, qu'est-ce qu'on allait faire? Leur faire retirer les masques? Non, ça aurait pas été une autre mise en scène, qui aurait pas été journalistique. C'est-à-dire que là, on aurait menti. Donc, on les a photographiés avec les masques. C'était leur outil de travail, c'était la femme de ménage, le coursier. Moi, j'ai photographié des femmes africaines qui passent dans les cités pour demander justement de porter le masque. Et donc, c'était des gens qui étaient là et qui avaient le masque, et c'était leur utilité.
Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui, Yann Morvan, Éric Bouvet et Renaud Epstein. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de François Suroux.
La religion seule est restée toute neuve. La religion est restée simple, comme les hangars de port-aviation. C'est ce qu'Apollinaire écrit dans Zone, et c'est ici que nous sommes, devant ce qui reste des hangars de port-aviation. Pour y parvenir, nous avons traversé la rue Lénine, la rue Vaillant-Couturier à Viry-Châtillon, nous avons longé la rue Piketty, qui n'est pas celle de Thomas Piketty, mais celle de Charles Piketty, qui était un enseignant du CRU, et à côté de Piketty, nous avons longé également l'étang de la justice. Bref, traversant ces noms liés à l'aventure de l'émancipation sociale, nous sommes tombés dans le monde de l'aviation de 1900. Nous sommes à présent dans la rue de la Baronne de la Roche. La Baronne de la Roche, qui était née en 1865 et qui est morte en 1910, un an après l'ouverture de l'aérodrome de Port-Aviation, a été la première femme brevetée pilote. Elle détenait le record de distance, 325 km, et le record d'altitude, 4500 mètres. Et nous sommes devant ce qui reste des hangars de Port-Aviation qui avaient si fort fasciné Apollinaire. C'est une petite maison, un ensemble de petites maisons avec des hangars, avec des colombages, avec le mess des officiers, et qui est un bâtiment absolument charmant à proximité de cette piste quadrangulaire où partaient les avions. Je vous ai parlé déjà d'Agram Bagram Co, le peintre surréaliste dont nous suivons la trace, et Bagram Co écrit dans une lettre de 1951, alors qu'il vit en exil à Vancouver, « Rien ne me manque plus désormais, sauf le ciel de l'Île-de-France. Avant la guerre, écrit-il, j'allais souvent à Port-Aviation. Le terrain avait fermé. Il restait une sorte d'hippodrome marécageux et les hangars, les maisons de bord de piste, évoquaient un campement d'aventuriers partis la veille pour on ne sait où. Je me couchais sur le dos pour imaginer des acrobaties d'avion. Et j'étais heureux, comme peut-être l'avait été avant moi le cher Guillaume. » C'est là donc qu'Apollinaire a probablement eu la première intuition de Zone. Il adorait l'aviation. Et on sait que de toutes les lectures possibles de Zone, la lecture spirituelle a sans doute été la moins pratiquée. Le Christ et les aviateurs, ou les fétiches, le pape, l'hypothèse de la confession, tout ce qu'on peut trouver dans Zone, passe très souvent pour des références un peu incongrues, un peu comiques, proches du jarry de la passion considérée comme une course de côte. Homère prophétise sans le savoir, disait Clément d'Alexandrie, et peut-être Apollinaire savait-il, en revanche, qu'il prophétisait. Et Zone est aussi un poème, ce poème de l'aviation que nous évoquons ici, devant les hangars de Port-Aviation. Zone est aussi un poème de l'éternité, qui n'a pas à voir avec le passé, ni avec l'avenir, mais avec le présent immédiat, d'où la préférence donnée précisément à l'aviation ou à la Tour Eiffel et au prospectus sur l'Antiquité grecque et romaine. Dieu, paraît penser Apollinaire, n'est présent dans aucune vieillerie. Il est présent dans l'instant même, il est présent dans le monde moderne. Et c'est ainsi qu'on peut lire dans Zone, sans y déceler en réalité, contrairement aux apparences, aucune trace d'ironie. Seul en Europe, tu n'es pas antique au christianisme. Ou bien, la religion seule est restée toute neuve. La religion est restée simple, comme les hangars de Port-Aviation. Au moment d'alcool, et au moment de ce poème, au moment de sa passion pour les avions, Apollinaire a consommé bien des échecs. Il a été emprisonné à la Santé dans l'affaire du vol de la Joconde. Il a échoué à conquérir Annie Pleden, Marie-Laure Ancin s'est détournée de lui, la même pensée entrée dans les ordres, et sa demande de naturalisation sera bientôt rejetée par l'administration. Elle ne sera acceptée, comme on le sait, qu'en 1916. Entre-temps, il se sera engagé dans l'artillerie pour la durée de la guerre et aura participé à la seconde offensive de Champagne. De cet aérodrome de Port-Aviation, il ne subsiste donc à présent que ce bâtiment dont je parlais tout à l'heure devant nous, et qui est le petit hôtel transformé en messe des officiers, édifié pour les pilotes et leurs amis, et une hélice dans le blason de la ville de Viry-Châtillon. À l'époque de la création de cet aérodrome, Viry n'était qu'un bourg de campagne. Le terrain avait été improvisé dans une zone inondée, une sorte de marécage, mais ce terrain n'en a pas moins abrité de beaux exploits qu'on sent encore vibrer dans l'air tranquille de cette journée de juillet, comme l'exploit du comte de Lambert qui partit d'ici, de là où nous sommes, en 1909, pour contourner la tour Eiffel pour la première fois en avion et en revenir, ou en 1911, celui de Beaumont qui rallia Paris à Rome et reçut pour cet exploit la bénédiction du pape Pie X, comme il est écrit dans Zone que nous avons cité, l'Européen le plus moderne, c'est vous, pape Pie X. Lorsqu'il a reçu Alcool, Max Jacob a écrit à Apollinaire « Je ne connais rien de pareil, rien de si grand, rien de si beau, de si orgueilleusement jeune. » C'était l'endroit pour s'en souvenir. 55 ans après le transfert de Port Aviation à Villacoublay pour y abriter l'école d'aviation militaire, en février 1961, le général de Gaulle a inauguré l'aérogare d'Orly-Sud. Et cet aérogare mérite également notre souvenir, puisqu'elle est devenue pour un temps la vitrine d'une France moderne, enfin délivrée de l'Algérie et de ses cauchemars, et vouée à toutes les facilités d'un monde en expansion, comme on disait alors. On y allait en famille le dimanche, comme dans le vers de Valérie Larbeau, « Demain, les magasins seront ouverts, ô mon âme ». Cet aérogare est aujourd'hui voué au transhumance de ce qu'on appelle le tiers-monde et elle s'en va un peu par plat, il faut bien le dire, à l'image de cette passerelle qu'on appelle Pont d'Orly et que les Parisiens connaissent parce qu'ils passent dessous en allant à l'aérogare, et qui fut un restaurant d'où regardaient passer les voitures des voyageurs, puis un dancing, puis rien. Vestige symbolique d'un État qui s'est plus dans l'éphémère en prétendant l'organiser. Il y a des héros de cette période, des héros qui sont ceux de notre jeunesse et dont on se souvient avec autant de plaisir que Apollinaire et ses avions, le commandant Dromard par exemple, qui fut de son prénom Archibald, un officier français du SDEC, un élégant patriote en guerre contre tout le monde, anglais, chinois, ancien nazi, affairiste et également diplomate. C'est Georges Lautner qui l'a mis en scène dans la série des films Le Monocle. On peut y admirer Robert Dalban dans le rôle du sergent Poussin et Dalio, l'ancien marquis de la Chaignette de Renoir, dans celui de l'ancien légionnaire Élie Meyeritsky qui meurt héroïquement. « Dors, petit français », lui dit Dromard en lui fermant les yeux. Orly est le centre d'une France de l'aventure. Le commandant Dromard y passe comme pour se retremper à l'énergie électrique du gaullisme, à son optimisme. Et en même temps, ce rêve apparaît comme un pis-aller, ce qui colore ces histoires extravagantes dans rien de mélancolie. Nous avons perdu les Indes, nous n'irons pas dans la Lune. Nous ne nous sommes pas tout à fait libérés tout seuls, mais nos vies sont au cinéma. Mais au fond, c'est quand même Sébastien que les grands dans ces années-là nous ont proposé en exemple. Enfin, à moi, pas à Vincent qui est avec moi aujourd'hui, parce que Vincent, qui est un homme sage, enfin, ou plutôt ses parents n'avaient pas la télévision. C'est Sébastien qu'on nous proposait en exemple, petit garçon têtu, lâché dans la montagne comme Tom Morel sur le plateau des Glières. Et au fond, dans cette montagne qu'on regardait en noir et blanc sur le RTF, dans cette montagne où se retrempe l'amour de la liberté pour ceux qui l'aiment, on pouvait entrevoir sur le mur du refuge de la douane une affiche invitant à s'engager dans la Légion étrangère comme un rappel des riches heures de Bir Hakeim. La chienne blanche et sauvage, belle, qui bondissait dans les alpages, c'était un peu de l'âme française, pure et jamais asservie. Et que Sébastien fut incarné par un descendant du pacha de Marrakech, l'éternel allié des Français contre le sultan, accroché à cette étrange épopée enfantine, les derniers lambeaux de l'Empire. Au début de chaque épisode, Cécile Aubry prenait la voix de Sainte-Geneviève pour nous appeler à suivre toujours, sans nous laisser jamais décourager par rien, le lièvre blanc qu'on ne voit jamais. Le lièvre blanc qu'on ne voit jamais. Le petit garçon de Bernanos, celui qui à l'heure de la mort rallie sa troupe en désordre pour entrer le premier dans la maison du père, conservera pour nous, à jamais, le visage de Mehdi.
C'était François Sureau, La Seine et nos amours. On se retrouve demain pour une nouvelle grande table d'été autour de l'ouvrage d'Arnaud Bertina, L'âge de la première passe, publié aux éditions Verticales. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Chouchane Djergaillan, Lou Quevauvillier, Jeanne Copé, Judith Kravitch et Mathieu Bellini. À la réalisation Marie Placé, à la technique Alex Dang. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.